page Facebook VOA Afrique.
Il est 14h ici à Washington DC, Eric Manilakiza avec vous, bienvenue sur VOA Afrique. Un colonel de l'armée malienne, auteur d'un ouvrage qui parle des exactions de l'armée contre des populations civiles, a été arrêté samedi soir à Bamako. Le colonel Alpha Yaya Sangaré a publié fin 2023 un livre de 400 pages intitulé « Mali, le défi du terrorisme en Afrique », dont certains passages ont provoqué le courroux des militaires putschistes au pouvoir depuis 2020. Le colonel Sangaré cite notamment des rapports d'organisations internationales de défense des droits humains documentant les abus de l'armée lors d'opérations antiterroristes. Un membre de l'entourage du militaire a confirmé son arrestation. Vendredi, le ministère de la Défense avait dénoncé la publication de l'ouvrage. Le ministère dénonce et se désolidarise des fausses accusations à l'encontre des FAMA, indique le communiqué du ministère de la Défense au sujet du livre. Au moins 170 personnes ont été exécutées lors d'attaques meurtrières massives de trois villages au cours d'une seule journée la semaine dernière dans le nord du Burkina Faso. Ce même jour, le 25 février, des massacres distincts ont été commis dans une mosquée et une église, faisant des dizaines de morts. La riposte de l'armée et de ses supplétifs civils, les volontaires pour la défense de la patrie, a permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes, selon des sources sécuritaires. Selon ACLED, organisation qui répertorie les victimes des conflits dans le monde, 439 personnes ont été tuées dans ces violences au cours du seul mois de janvier. Deux leaders syndicaux au Gabon, Alain Mangouadi et Thierry Nkoulou, qui avaient été brièvement interpellés vendredi après une réunion avec le ministre de la fonction publique, ont été libérés ce dimanche matin, selon un communiqué de la dynamique unitaire. Notre correspondant à Libreville a rapporté que la centrale syndicale avait lancé une alerte au kidnapping et prévoyait un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale jusqu'à leur libération. Dynamique unitaire a accusé des officines obscures liées à l'ancien régime d'Ali Bongo Ondimba d'être derrière ces manœuvres. Le bureau national de la centrale syndicale prévoit une conférence de presse pour se prononcer sur les raisons de leur interpellation. La Confédération syndicale internationale, regroupant 200 millions de membres à travers le monde, lance ce dimanche une campagne de défense pour défendre la démocratie, jugée en déclin à l'aube d'une année 2024 marquée par de multiples élections. Historiquement, les syndicats ont joué un rôle essentiel pour encourager la culture de la démocratie, fait valoir la Confédération dans un communiqué en rappelant leur rôle dans l'avènement de la démocratie en Pologne ou en Afrique du Sud. La campagne vise à répondre aux conditions de travail dégradées que les travailleurs continuent à affronter sur fond de politique néolibérale, d'austérité et de régime de plus en plus autoritaire. Le ministre allemand de la Défense a accusé ce dimanche le président russe Vladimir Poutine de chercher à déstabiliser Berlin à la suite de la diffusion depuis la Russie d'échanges confidentiels entre des officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine. Il s'agit simplement d'utiliser cet enregistrement pour déstabiliser et pour mettre à mal l'unité de l'Allemagne, a-t-il déclaré devant la presse à Berlin. Son contenu révèle également des détails sur la manière dont le Royaume-Uni et la France aident l'armée ukrainienne à utiliser les missiles Scalp que les deux pays livrent à Kiev. Le ministère allemand de la Défense a confirmé samedi que l'enregistrement était authentique et qu'il avait été intercepté. Des prisonniers sont évadés du pénitencier national de Port-au-Prince après l'assaut de gangs armés samedi soir contre la principale prison haïtienne. Selon l'ambassade de France à Haïti, à la presse locale, parmi les évadés figurent d'importants membres de gangs très puissants, rapporte la Gazette d'Haïti. Depuis jeudi, Port-au-Prince est le théâtre de violence, les gangs armés affirmant vouloir renverser le Premier ministre Ariel Henry, actuellement absent de la capitale, selon le Nouvelliste. Le pape François a appelé ce dimanche à garantir un accès sûr à l'aide humanitaire pour la population de Gaza, où les bombardements israéliens se poursuivent dans le territoire palestinien menacé de famine, selon l'ONU.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manelakiza avec vous, Michel Claire Joseph assure la mise en onde. Ce soir, le dialogue des religions est consacré aux synagogues, des lieux emblématiques de la foi juive à travers le monde. Dans cette émission, nous explorons l'histoire, l'architecture, les pratiques religieuses et la signification culturelle des synagogues. Rejoignez-nous pour un voyage fascinant à travers ces lieux sacrés qui ont joué un rôle central dans la vie spirituelle et communautaire des Juifs depuis des siècles. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Mohamed Bodj à Manhattanville, à New York. Professeur Bodj, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Je signale que vous donnez des cours sur l'histoire africaine et africaine-américaine, l'islam, l'esclavage, l'histoire mondiale, l'histoire médiévale et les études globales de la diaspora africaine. Et vos recherches actuelles portent sur les questions d'identité, de religion et de changement social. Merci encore une fois d'être avec nous dans ce dialogue des religions. Ma première question, professeur, quelles sont les origines historiques des synagogues et comment ont-elles évolué au fil des temps?
Alors, le phénomène de la synagogue se trouve dans un complexe culturel assez large, disons, que nous pouvons constater depuis l'apparition de la Mésopotamie et de l'ancienne Égypte, et entre les deux, à travers le croissant fertile, donc ce qu'on appelle Israël, Palestine, la Syrie, etc. Donc on a une tradition d'avoir des temples dédiés aux dieux, et maintenant la synagogue est devenue une sorte de temple réduite. Lorsque les Israélites ont perdu leur liberté, leur self-détermination, le droit à s'administrer eux-mêmes et ont été conquis par des empires qui ont disloqué ces temples, et donc les gens se sont réfugiés dans des maisons communautaires, dans des pratiques communautaires, souvent dans des maisons individuelles et même, disons, de quartier pour pratiquer leur foi. Et c'est là où on a l'apparition de la synagogue par opposition au temple, qui est un élément central et souvent sous la conduite d'un homme fort comme Salomon ou David. La synagogue est un ensemble, disons, local qui permet à des voisins, et évidemment le voisinage peut être plus ou moins élargi même à la dimension d'une petite ville, pour donc avoir un lieu où ils peuvent se rassembler pour diverses manifestations liées à la religion, mais aussi liées à la recherche de la cohésion sociale. Donc c'est un peu ce que la synagogue représente d'une manière générale dans l'évolution historique.
Et qu'est-ce qui caractérise ces synagogues du point de vue architecture?
Alors, il y a des synagogues qui ont évolué de maisons particulières où les gens ont décidé de les transformer en synagogues. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'architecture consacrée à la synagogue. C'est une architecture fonctionnelle qui permet d'abord de faire une prière. Il doit y avoir un endroit où on peut faire une prière. Il doit y avoir une partie où la communauté doit se rassembler, non seulement pour la prière, mais pour discuter de ses affaires. Il doit y avoir un endroit où les élèves, qu'ils soient petits ou grands, peuvent se retrouver pour étudier. Ces trois endroits peuvent être le même, plus ou moins déterminés par peut-être des sortes de barrières qui peuvent rendre cet espace plus ou moins important. C'est la première chose. La deuxième chose qu'on doit retrouver dans la synagogue, mais qui n'est pas dans tous les synagogues, dans toutes les synagogues plutôt, c'est un endroit où on peut faire, disons, des sacrifices. Puisque la religion juive a évolué et a abandonné, disons, la pratique du sacrifice, on peut dire que depuis assez longtemps, et peut-être même depuis le temps romain, il n'y a pas beaucoup de synagogues qui sont construites avec dans l'esprit un endroit où on peut faire un sacrifice. Donc ça a plus ou moins disparu des synagogues, mais les premières synagogues, effectivement, avaient cet espace-là. Et le dernier espace, et évidemment aussi un espace où on peut faire des baptêmes, hein, donc, parce que là aussi, c'est une partie particulière des anciennes pratiques des Juifs que certains ont continué, donc le mikvah, le bain rituel, là aussi, il peut être présent ou ne pas être présent. Donc, ce qui fait que la forme peut évoluer et dépendant de l'usage et de la taille de la communauté, on peut avoir divers éléments architecturaux. Mais la synagogue est un peu différente, par exemple, de la mosquée qui doit y avoir une certaine orientation. La synagogue n'a pas de template, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un plan préétabli que tout le monde suit. Maintenant, à l'intérieur, il doit y avoir un endroit où les rouleaux sacrés sont conservés. Il doit y avoir un endroit où il y a une lumière permanente. Il doit y avoir un endroit un peu élevé, disons, par rapport au reste, une sorte d'hôtel, si on peut parler ici, où les gens peuvent effectivement diriger la prière de la communauté ou bien délivrer des informations ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que l'architecture extérieure est un peu quelconque, d'une certaine façon, elle ne suit pas des règles absolument fondamentales, mais l'architecture intérieure, elle, doit définitivement dégager des espaces qui sont nécessaires au culte et qui sont nécessaires à la conservation des objets de culte et qui sont nécessaires à l'expression de la foi juive. Donc c'est d'une manière générale, hein, assez caricatural, ce dont on peut parler sur l'architecture intérieure et l'architecture extérieure de la synagogue.
Et quels sont les principaux rituels et pratiques religieuses observées dans une synagogue en dehors du baptême des sacrifices que vous venez de mentionner tout à l'heure?
Bon, évidemment, il y a la prière elle-même, une prière individuelle ou collective. Il y a, bien entendu, ce qu'on peut appeler les hauts moments du calendrier juif, les grandes fêtes, le Yom Kippour, fêtes consacrées, en particulier la quinzaine qui coïncide plus ou moins vers la fin de décembre où on se retrouve avec ce que quelquefois on appelle la haute saison de la pratique religieuse et où effectivement la synagogue est très fréquentée. Et à ce moment-là, pour quelques jours, la communauté se retrouve autour de la synagogue plusieurs jours de suite à ce moment-là. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, une sorte de lieu de culte régulier, journalier, que chacun peut plus ou moins fréquenter pour ses propres besoins ou pour des besoins collectifs, mais aussi qu'on peut appeler des moments importants pour la communauté où toute la communauté se retrouve suivant le calendrier liturgique juif.
Existe-t-il des différences significatives entre les synagogues des différentes branches du judaïsme, par exemple orthodoxes, conservateurs ou réformés, etc.?
Surtout à l'intérieur, parce que par exemple, les synagogues réformées permettent aux hommes et aux femmes de se mélanger, tandis que les synagogues conservatrices traditionnelles séparent les hommes des femmes, par exemple. Donc là, on se retrouve un tout petit peu, quelquefois, dans certaines synagogues, on va créer cette séparation, ce qu'on peut retrouver dans certains autres lieux de culte, que ce soit les premières églises ou que ce soit beaucoup de mosquées, où on fait une sorte de barrière interne, où on dit là, c'est l'espace des femmes et là, c'est l'espace des hommes. Et ça, c'est une marque de l'affiliation ou de l'interprétation de la foi juive qui, effectivement, est une différence à l'intérieur, même la séparation des hommes et des femmes. C'est souvent la chose la plus remarquable lorsqu'on veut faire la différence entre, disons, le judaïsme réformé et le judaïsme traditionnel.
Comment les synagogues ont-elles servi de centre communautaire pour les juifs à travers l'histoire?
Alors, la synagogue joue un rôle extrêmement important parce qu'on sait que le temple de Jérusalem qui a été détruit plusieurs fois, et en particulier la destruction de 586 avant Jésus-Christ, donc la destruction du temple de Salomon, a créé une sorte de vide au sommet dans la hiérarchie, où parce que le temple est un lieu consacré, très construit, très symbolique, administré et contrôlé souvent par aussi la haute autorité politique, qui souvent aussi peut être la haute autorité religieuse, comme Salomon ou David. Mais dès l'instant où les Juifs ont été conquis par les Assyriens, ensuite les Babyloniens, les Néo-Assyriens, les Perses, et ensuite les Romains, etc., ce grand temple n'est pas réapparu de façon régulière, et donc les gens se sont rattrapés, se sont retrouvés un tout petit peu dans ce qu'on peut appeler une célébration communautaire, plutôt qu'une célébration centrale et grandiose qui se serait déroulée dans le temple. Donc la synagogue a remplacé le temple d'une manière générale comme lieu de culte, comme lieu communautaire, et où donc beaucoup de choses qui se seraient pratiquées dans le temple, comme la célébration des fêtes communautaires, où là, tout le monde se retrouve. Bon, c'est maintenant la synagogue qui fait ça. Et en plus, c'est là où on va célébrer les mariages, c'est là où on va passer les rites d'initiation, de passage, comme le bar mitzvah, donc la circoncision juive, le passage de l'enfant à l'âge adulte, etc. Donc toutes ces choses-là deviennent des fêtes communautaires, qui sont aussi des rituels religieux, dans une communauté qui se reconnaît et qui est locale, ce qui fait qu'à la différence peut-être de l'islam ou même de la chrétienté, où il y a une très grande cathédrale au centre de la ville qui trône et où siège, dans le cadre chrétien par exemple, un archevêque qui est délégué du pape et qui a une autorité extra sur tout ce qui se passe dans la communauté. On n'a pas cet équivalent. On peut dire que dans la religion juive, on a des églises de paroisse, on a des mosquées de quartier, donc la synagogue, et on n'a pas beaucoup de temples. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de cathédrales, on n'a pas beaucoup de mosquées centrales. Si on fait une certaine comparaison, c'est un peu l'image qu'on a, et en particulier maintenant, bien entendu. Mais ça, c'est le produit d'une histoire, encore une fois, de l'asservissement et de la conquête des Juifs par des puissances étrangères qui ne leur ont pas permis de relever, de reconstruire leur temple à volonté, et qui finalement les ont contraints quelquefois même à l'exil forcé. Et dans ces exils forcés, on peut parfaitement imaginer qu'il n'y a pas une liberté de pratique religieuse, et en particulier une liberté de construire des temples grandioses, ce qui serait une sorte de provocation. Imaginons les Juifs construisant des temples à Babylone ou au milieu de Memphis, dans l'ancienne Égypte. Et c'est là où, visiblement, la solution, le compromis, un peu pour passer inaperçu, ou en tout cas sans créer beaucoup de troubles, c'est la synagogue locale qui va remplacer et qui va faire fonction de temple et de synagogue en même temps.
Le dialogue des religions consacré ce soir aux synagogues. Notre invité, l'historien Mohamed Mbodj, professeur à Manhattanville College, c'est à New York. Alors, comment ces synagogues s'intègrent-elles dans le tissu social et religieux des communautés juives contemporaines?
Alors, les communautés juives contemporaines, et en particulier celles qui sont hors d'Israël, donc de la terre originale que les Juifs réclament. Et donc la synagogue fonctionne encore une fois, un tout petit peu comme, même quelle que soit la longueur et la durée de l'implantation de ces communautés, qui quelquefois sont là depuis 2000 ans, il y a des communautés juives, je ne sais pas, dans le pourtour méditerranéen d'une manière générale, par exemple, pour donner cet exemple. N'empêche que la synagogue fonctionne un tout petit peu comme le lieu où on se retrouve en attendant de se retrouver dans le grand temple à Jérusalem. Il y a une sorte de symbolique de la réunion et de la cohésion de ces communautés juives qui se comportent un tout petit peu comme toujours en exil. Et tout le monde sait que lorsque on a cette mentalité d'exilé, les lieux de rencontre deviennent hautement symboliques. Ils ne sont pas des lieux de rencontre ordinaires, mais deviennent, ont une valeur affective, morale et spirituelle beaucoup plus importante que peut-être la communauté qui vous entoure, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou autre. Et où on se sent chez soi en quelque sorte. Il n'y a pas cette projection qu'il y a un autre endroit où on aimerait bien se trouver. Jérusalem pour les Juifs, même si c'est simplement mythique, c'est une, on peut même dire rhétorique dans beaucoup de populations juives dans le monde qui certainement ne vont pas rentrer en Israël, ne vont pas se trouver à Jérusalem. Mais c'est une différence quand même, disons, dans l'importance de la synagogue par rapport aux lieux de culte d'autres religions qui sont un peu plus ordinaires et n'ont pas ce caractère affectif qu'il y a un attachement par rapport à un endroit qui est à des milliers de kilomètres de là et qui représente la profonde et l'originale, la spiritualité originale de cette religion.
Et quel rôle les synagogues jouent-elles dans la préservation et la transmission de la culture juive?
Les synagogues fonctionnent comme école, Schule, pour utiliser le yiddish apparenté à la langue allemande, Schule, school, école. Et donc, de ce point de vue-là, c'est là où les gens apprennent les éléments de leur religion, les consolident, c'est là où on éduque les enfants de très bas âge, à la définition de ce que ça signifie d'être juif, que, comment pratiquer la religion juive, comment se reconnaître dans cette communauté. C'est là où les mariages vont se nouer, les familles vont faire des alliances. Il y a d'autres pratiques qui vont se nouer dans ces synagogues, que ce soit des pratiques d'affaires, des partenariats économiques, etc. Donc la synagogue fonctionne comme ça. Mais surtout cette transmission de la connaissance, et en particulier aussi les textes sacrés, ils sont conservés. Et l'enseignement religieux se faisant à partir de ces textes sacrés, c'est l'endroit où il faut se rendre pour recevoir ses leçons, pour approfondir sa connaissance, pour approfondir sa foi, pour enrichir sa pratique et faire en sorte que la communauté soit solide et soit élevée étape par étape, classe d'âge par classe d'âge, donc de la petite enfance à la vieillesse et pour être remplacée par d'autres générations.
Et comment elles ont été affectées par les événements historiques majeurs tels que les pogroms et l'Holocauste et la création de l'État d'Israël?
Alors, la synagogue est un lieu où on peut trouver les Juifs, et bien entendu, lorsqu'on veut leur faire du mal, c'est là où on va se diriger. Donc, ce qui fait que l'une des mesures, souvent, des régimes qui veulent persécuter les Juifs, c'est de fermer les synagogues ou d'en autoriser un tout petit nombre, ce qui permet d'ailleurs de contrôler qui entre et qui sort. Les deux solutions souvent se suivent. Et donc, d'une certaine façon, ça permet de contrôler cette population par rapport à l'autorité centrale qui se méfie des Juifs et qui veut contrôler leur mouvement, leurs idées, ou quelquefois aussi veut s'allier avec cette communauté juive en permettant à certains rituels de se pratiquer et à d'autres de ne pas être pratiqués. Donc la puissance publique peut effectivement fermer, ouvrir, favoriser, ne pas favoriser ces synagogues qui sont des sigles assez visibles et assez importants dans une politique. Si on veut s'adresser, si on veut cibler la population juive, il est évident qu'il est très important pour tout gouvernement de savoir où sont les synagogues, qui les dirige, qui les finance, qui les fréquente, etc. etc. Et donc, dans la pratique des pogroms, dans la pratique de l'extermination des Juifs, il est évident que les synagogues vont être des points d'ancrage de ces politiques et qui vont faire en sorte que effectivement cette politique d'oppression voire même d'extermination pour être effective, elle doit pouvoir contrôler ne serait-ce que sur le plan géographique ces synagogues et faire en sorte que de les utiliser dans, comme élément de répression.
Est-ce qu'un non-juif, par exemple, il peut avoir accès à ces synagogues? Est-ce qu'on peut l'accepter?
Ça dépend des rites. Certains rites sont assez fermés et ne permettent pas à des non-juifs. D'autres sont assez ouverts et permettent un tout petit peu. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de religions aussi, où souvent il y a une interprétation fermée qui fasse que la communauté se définit simplement et seulement par la foi. Et d'autres où la communauté se définit comme une entité à l'intérieur d'une plus grande communauté à laquelle on est ouverte. Et où on permet aux gens, peut-être à la limite de participer avec les frères juifs à des moments de compassion, de rituel. Il y a même des cas où, lorsque des lieux de culte sont détruits, par exemple, et en particulier dans le monde contemporain, sont des exemples qui sont très faciles à trouver, où des mosquées ont été vandalisées ou brûlées, ou même il y a une communauté qui cherche à construire une mosquée et dans certains endroits, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, beaucoup de synagogues se sont mises à la disposition de ces communautés pour qu'elles viennent pratiquer leur foi. Par exemple les musulmans donc le vendredi ou le jeudi soir, la veille du vendredi. Donc ce sont des choses qui ne sont pas rares, hein. c'est pas permis. Les synagogues ne sont pas seulement et uniquement pour les juifs partout au monde, loin de là.
Donc elles sont impliquées dans le dialogue interreligieux.
Oui, absolument. C'est un endroit magnifique où non seulement on peut retrouver la communauté locale avec laquelle on peut dialoguer, parce que tout dialogue interconfessionnel commence sur le plan local, des gens qui se connaissent, qui se fréquentent, dont les enfants vont à la même école, sont dans les mêmes équipes sportives et autres, c'est là où ça commence. Ensuite, la solidarité lorsqu'il y a des épreuves, la mosquée est détruite, le temple a été vandalisé, l'église a été fermée, etc. Donc, ce sont des choses qui la synagogue joue son rôle lorsque les communautés juives sont fortement établies et donc elles peuvent permettre à d'autres communautés de y participer. Et, maintenant, le judaïsme et l'islam n'ayant pas de pape, n'ayant pas l'équivalent d'archevêque ou de cardinal, quelque chose comme ça, il est évident que lorsqu'on parle de dialogue islamo-chrétien, c'est vraiment d'abord dans ces endroits-là où ça se passe. Et donc, ce sont des engagements communautaires plutôt que des engagements, disons, de type imposés par le haut, par la hiérarchie à la masse des croyants. Donc, et pour que le dialogue interconfessionnel marche, évidemment, c'est... il faut que la plupart des croyants, en tout cas les croyants de base, soient investis et y croient et y participent. Et disons donc, s'il faut trouver des juifs de base, si on peut parler ainsi, il faut aller dans une synagogue. Donc c'est bien là où ce dialogue interconfessionnel va se passer.
Professeur Mbodge, merci beaucoup pour votre contribution dans ce dialogue des religions.
Je vous en prie et merci et bonne journée.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Eric Mangakiza a été avec vous. Michel Pierre-Joseph a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.
Préférée sous la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.